Vous écoutez News FM.
News FM.
Bon après-midi. Il est 13h.
News FM. 13h viennent juste de sonner sur la pendule de News FM et nous vous proposons tout de suite un moment de rencontre et de discussion en compagnie de Ibrahima et de ses invités. Bonjour Ibrahima. Je te laisse donc, je crois que je ne t'ai même pas monté le micro dès le début, excuse-moi. Donc je redis bonjour Ibrahim.
Bonjour Christophe.
Allez, je te laisse l'antenne pour nous présenter tes invités et puis entamer la discussion.
Et voilà, merci Christophe. Aujourd'hui, je reçois Monique Vieillard qui nous vient de la PARDAP avec Serena Nubin qui vient de RISF. Donc... c'est des invités, en tout cas, de grande taille que nous recevons ici aujourd'hui sur ce plateau, et qui est deux associations qui travaillent sur l'accueil des étrangers en France. Et voilà, donc, bonjour, Madame Monique.
Bonjour.
Et bonjour, Serena.
Bonjour, Ibrahima.
Et voilà, donc, nous allons commencer avec Madame Monique. Alors, vous pouvez vous présenter à titre personnel.
Ben voilà, je suis bénévole à la PARDAP. La PARDAP, c'est l'Association de parrainage républicain des demandeurs d'asile. Sa spécialité, c'est de parrainer, de faire parrainer des migrants avec des familles d'ici, devant le maire. Et c'est en gros les premiers papiers qu'ils peuvent obtenir. Et en dehors de ça, évidemment, on a toute une série d'activités pour éviter qu'ils s'ennuient en attendant des papiers.
Ok. Merci. Et voilà, quelle année la PARDAP a été créée et qu'est-ce qu'elle fait ?
Au départ, c'était un petit collectif de femmes en 2003 qui ont inventé le parrainage républicain. Puis ensuite, c'est devenu une association en 2008 et l'association ne fait que grandir du fait des activités qu'elle conduit. Parce que non seulement on a des permanences, mais en même temps... on organise des sorties en montagne, des sorties culturelles, des cours de français, des cours d'informatique, des cours de couture, des cours de dessin. Et donc, on essaie de créer un lieu convivial pour les accueillir. C'est ainsi qu'on les appelle, et dans un espace dédié.
Et voilà. Merci, toujours avec Madame Monique. Raconte-nous un peu comment vous avez connu la PARDAP et pourquoi vous avez décidé de vous y engager.
J'ai connu la PARDAP par un ami qui était déjà, puis qui m'a dit tu devrais venir t'occuper un peu des migrants, il y a du travail, c'est passionnant. Et voilà, et depuis 2014, je suis devenue d'abord marraine d'une famille de Kosovo, qui a obtenu ses papiers. C'est bien de le signaler, parce que ça devient rare. Et puis, petit à petit, je me suis insérée dans cette association que je trouve super.
Ouais, c'est bien. Merci. Et voilà, donc on va retrouver Serena. Serena, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter.
Oui, donc je m'appelle Serena et je suis membre du collectif Réseau Université Sans Frontières 38, donc qui lutte pour... l'accès à l'éducation pour toutes et tous. Et donc là, on est situé à Grenoble et donc on travaille notamment beaucoup à l'université de Grenoble. Je suis par ailleurs salariée de l'association Modus Operandi et je le dis parce que je trouve que c'est important de toujours situer sa parole. Et c'est une association qui fait des actions de recherche sur différentes formes de violence. Et donc notamment, on travaille à construire des analyses des politiques migratoires et de l'asile avec les premières personnes concernées.
Merci. Présente-nous rapidement RISF.
Ouais.
Une présentation rapide de RISF.
Ouais. Je vais essayer de faire une présentation rapide. Ouais. Donc, le collectif cherche à défendre le droit, notamment des étrangers, des étrangères qui s'inscrivent à l'université. Mais donc, on accompagne dans l'aide à l'inscription, mais pas seulement, aussi à faire respecter les droits et lutter contre les injustices au sein de l'université. Et on est aussi d'une aide quand il y a des problèmes plus administratifs en lien au séjour, par exemple.
Ok. Alors, comment cette association est née et quelle est son histoire, le RISF ?
Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire du RUSF Grenoble, parce que je ne sais pas si ça serait forcément très intéressant... Et voilà. Mais en gros, le réseau, il existe depuis 2003-2004. Il a été fondé par des étudiants de Sciences Po à la base. Et puis ensuite, il a connu un grand calme avec simplement Grégoire qui aidait par-ci par-là à des étudiants à s'inscrire à l'université. Et quand il y a 3 ans de ça à peu près, l'État a mis en place un centre d'accueil et d'orientation à l'université de Grenoble pour amener des personnes qui vivaient à la base dans le bidonville de Calais à Saint-Martin-d'Hères. Donc là, il y a un collectif qui s'est formé, qui a dit, ces personnes, elles habitent à l'université, pourquoi on ne les inscrirait pas à l'université pour se former? Et donc, c'est à ce moment-là que le collectif RUSF est renaît. Ah, okay. Et du coup, je voulais juste préciser que ce n'est pas seulement des étudiants, c'est aussi des enseignants, du personnel de l'université, des sympathisants.
Voilà. Ça représente combien de personnes, RUSF ?
Donc le noyau dur, je dirais qu'on est entre 10 et 15. Après, on a des liens dans toute l'université, donc des gens qui travaillent avec nous sans se dire directement du RUSF.
Eh bien, ok. Madame Monique, quelles sont les difficultés que la PARDAP rencontre et quels sont également les problèmes que vous rencontrez quand vous recevez des migrants dans le Bijan ?
Sont les problèmes des accueillis, comme on les appelle. On a choisi ce nom. Il faut entendre les récits, il faut les aider à surmonter les déceptions quand ils ne sont pas devenus qu'ils n'ont pas obtenu l'asile, pardon. Il faut les aider à trouver la voie pour obtenir des droits et aussi les aider à supporter la situation dans laquelle ils sont, de gens souvent sans droit de travail, sans droit à l'hébergement, sans droit à rien, mais contraints de rester ici. Et donc, on essaye de faire en sorte qu'ils s'en sortent le mieux possible. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ça, on ne s'occupe pas simplement de les accompagner à la préfecture, etc., mais on organise des activités à leur intention et avec eux surtout. Et je dois dire quand même que en 4 ans, je vois à quel point la situation s'est dégradée pour eux, quoi, par une attitude de fermeture absolue de la préfecture, par des tracasseries comme celles qu'on combat aujourd'hui en manifestant pour les jeunes, même quand ils sont entrés dans une formation, à partir du moment où ils ont 18 ans, on leur supprime toutes les possibilités d'être hébergés, d'avoir un petit pécule. Et c'est une grande misère humaine qu'on fabrique là, et c'est ça qui est éprouvant, y compris effectivement quand on est bénévole.
Ibrahima, si je peux me permettre, oui. Je ne peux pas m'empêcher de poser quelques questions aussi. Dans l'intitulé à PARDAP, donc vous parlez bien de parrainage républicain. Pourquoi cette notion de républicain est importante à associer à parrainage ?
Parce que ceux qui ont inventé ça ne supportaient plus le constat qui est encore celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des gens qui vivent sur notre territoire et qui n'ont généralement pas de droit pendant des mois, voire des années. Et le parrainage républicain, ça sanctuarise d'une part une relation entre l'accueilli et le parrain, et ça l'officialise devant le maire, et ça donne lieu à délivrance d'une petite carte dans laquelle il y a les photos d'identité des deux parties, les noms, et nous recommandons aux accueillis de bien garder cette carte, parce que parfois c'est le seul papier un peu officiel qu'ils ont. Et on cherche en ce moment, avec d'autres associations, puisque moi je suis dans un collectif qui s'appelle Migrants en Isère, il y a 19 associations qui ont organisé un week-end de l'hospitalité à Outran. Et une de nos propositions, c'est de faire en sorte que dans nos collectivités, on délivre des cartes citoyennes de territoire ouvrant à des droits à égalité avec les autres populations qui vivent ici. Et je crois que cette question avance un peu.
Ouais. Les parrainages sont toujours faits dans le cadre d'une cérémonie ?
Oui, toujours. Il faut qu'il y ait des élus, et souvent c'est le maire. Et on rencontre comme ça beaucoup de maires de communes, parce qu'on ne fait pas les parrainages qu'à Fontaine ou à Saint-Martin-d'Hères ou à Grenoble, mais on va à Saint-Martin-de-l'Église, à Saint-Jean-d'Outremont, enfin voilà, dans toute une série de villages. C'est aussi pour nous une façon de pénétrer des territoires qui ne connaissent pas vraiment la situation des accueillis et de leur faire comprendre que ce sont des hommes et des femmes comme nous et qu'on doit les respecter et leur donner des droits. Et ça aide les villageois à prendre conscience de l'importance de ce phénomène. Donc il y a une action un peu, disons, politique derrière, sensibilisation à cette question de l'immigration.
Oui, merci Monique pour cette réponse. Sirena, la même question pour vous. Quelles sont les difficultés que l'USF rencontre dans son action quotidienne?
Alors, on rencontre beaucoup de difficultés, mais il y en a une dont j'ai envie de parler tout particulièrement. Monique l'a déjà dit, donc les personnes n'ont pas de droit à l'hébergement. Enfin, elles ont un droit à l'hébergement, mais il n'est pas respecté. Donc ça, c'est une de nos grandes difficultés, en fait, de travailler avec des gens qui vivent dehors ou qui vivent dans des solutions d'hébergement qui ne sont pas du tout satisfaisantes. Notamment, en ce moment, c'est la rentrée et c'est souvent le moment le plus dur où on rencontre des personnes qui nous disent « bah voilà, j'ai réussi à m'inscrire à l'université, mais je ne sais pas où dormir » ou « si je n'ai pas les bonnes conditions pour dormir, pour étudier, bah, c'est pas possible, en tout cas c'est très difficile ». Et donc là, on n'a pas de solution, parce que donc, le droit n'est pas respecté, l'État devrait héberger ces personnes, mais il ne le fait pas. Alors qu'on sait en ce moment qu'il y a certaines structures d'hébergement qui sont à 50% de chambres inoccupées. Donc c'est quand même assez révoltant. Et donc on cherche des solutions. Par exemple, on travaille avec le CROUS pour les demandeurs d'asile qui reçoivent leur allocation. Des fois, on réussit à constituer des dossiers qui permettent d'avoir une chambre au CROUS, mais c'est quand même compliqué parce qu'il faut un garant, il faut une caution, donc c'est tout un système à établir. On est en lien comme ça avec une personne de l'université qui nous aide beaucoup sur cette question. On essaye d'être en lien avec tous les collectifs d'hébergement qui peuvent exister, mais qui sont, qui ont le problème qu'il y a trop de personnes qui ont besoin d'hébergement par rapport aux personnes qui hébergent, notamment l'année dernière, on s'y est essayé au réseau Université Sans Frontières. On a aidé des personnes à être hébergées chez l'habitant. Du coup, chez l'habitant, c'était du personnel de l'université ou des étudiants de l'université en général. On avait lancé un appel en début d'année, on a eu pas mal de réponses et on a essayé de constituer, comme le font beaucoup d'autres associations et collectifs autour de Grenoble, une sorte de boucle où la personne puisse dormir un mois et demi chez quelqu'un, puis elle change de famille. Donc on l'a fait au début pour 4 étudiants, dont 2 ont réussi à trouver un hébergement au CROUS. On a continué avec 2. C'est quelque chose que ça continue encore aujourd'hui, mais c'est très difficile. Et donc maintenant, on est en lien avec une association qui est nouvelle à Grenoble et qui s'appelle L'Ouvre-Porte, et qui donc, comme ça, crée des systèmes de boucles chez l'habitant pour héberger des personnes qui en auraient besoin. Et donc, en fait, on va faire un lien avec eux où, via notre réseau, on pourra faire des appels dans l'université, parce qu'on a quand même cette possibilité-là qui est énorme de faire un appel à toute l'université, sur toutes les boîtes mail de tout le monde, de qui aurait une chambre à partager de temps en temps. Et donc, c'est eux qui géreront un peu la suite logistique, ce que nous, on n'avait pas le temps de faire, vu qu'on a d'autres combats qu'on est en train de mener par ailleurs. Ouais.
Allez, merci, Sirena.
Pour réagir, non ?
Bien sûr.
Sur cette question de l'hébergement, évidemment, on a les mêmes préoccupations. Et nos principales préoccupations en ce moment sont les familles qui sont avec enfants à la rue. Ouais. Et pour lesquels il est très, très difficile, nous aussi on pratique le recours au collectif, les hébergements tournants, mais c'est, pour des familles avec enfants, c'est hyper compliqué. Personne ne peut accueillir comme ça durablement, c'est aussi une question de durée, des familles de 4 ou 5 personnes. Et là, nos solutions, elles sont liées au fait qu'on a cherché à obtenir de la d'Alpes Métropole des prêts de logement qui restent vacants pendant le temps que se réalisent des projets urbains. Et nous avons comme ça une dizaine de logements, de grands logements, qui peuvent être ainsi occupés par les familles. Et le deuxième problème, c'est la conséquence de la décision du conseil départemental de stopper tout accompagnement de jeunes à 18 ans, alors qu'ils sont engagés dans des formations, alors qu'ils ont des diplômes et qu'ils sont en attente de titre de séjour. Et cela, on a recours effectivement un peu de la même façon à des habitants qui acceptent de les prendre pour 15 jours, 3 ou 4 familles pour 15 jours, ça tourne et finalement ça fait un hébergement permanent avec quand même les conséquences, quoi. C'est qu'il faut qu'ils transportent ses valises en permanence et que ce n'est pas vraiment satisfaisant comme système, quoi. Mais il y a un gros problème d'hébergement et ça, c'est quand même la responsabilité de l'État l'assumer. Ouais. Et ce n'est pas fait.
Je voudrais juste ajouter un truc, Ibrahima, parce que je pense qu'on a plein de messages à faire passer, mais une autre grande difficulté, c'est la loi qui est de plus en plus répressive, puisque, bon, Monique l'a dit tout à l'heure, obtenir des papiers, c'est difficile. Ouais. Et en fait, ça, c'est une vraie difficulté qu'on rencontre, des gens qui n'ont pas de papiers, ou soit qui avaient des papiers et qui se retrouvent sans papiers et qu'on a vraiment beaucoup du mal, même en les accompagnant, à ce qu'ils retrouvent un titre de séjour, ou des personnes qui arrivent sans papier, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'arriver en France avec des papiers, enfin, c'est vraiment difficile, et donc qui vont vivre comme ça des années sans pouvoir se régulariser, et aussi le cas des demandeurs d'asile, quand ils sont déboutés, et qu'ils sont déjà dans le système universitaire, par exemple, mais pour tous les autres qui ne le sont pas aussi, le problème est le même, qu'on ne trouve pas en fait, de solution pour se régulariser, et pourtant, les gens vivent sur le territoire, participent à la vie de notre territoire et sont là, et resteront là, quoi.
Ouais. Allez, merci pour ta précision. La barrière de la langue est-elle un gros problème dans votre relation avec le public migrant, Serena?
Ouais, j'avais vu cette question que tu voulais me la proposer, alors je ne l'ai pas bien comprise. Tu veux dire entre nous, en tant que bénévoles,
entre vous et ceux qui vont pour s'inscrire, par exemple, à l'université, est-ce qu'il n'y a pas un problème de compréhension, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui comprend français ou qui parle bien français? Il n'y a pas ce problème, cette difficulté de se comprendre?
Au sein du RUSF, ce n'est pas un problème pour nous. Le problème, il est pour l'université, puisqu'il faut avoir un niveau B2 pour pouvoir s'inscrire à l'université, qui est un niveau de français assez élevé. Et en plus, pour avoir la certification, il faut passer un test qui coûte assez cher. Donc, le problème, il n'est pas pour nous, puisqu'on se débrouillera toujours pour discuter d'un moyen ou d'un autre. Par contre, pour entrer à l'université, effectivement, c'est un obstacle. Et notamment, il y a eu le DU, Diplôme Universitaire PASS, qui s'est monté il y a quelques années au QF, donc qui est le Centre de Formation de Langue de l'Université. Fait justement pour des personnes étrangères qui voudraient obtenir le niveau B2 et qui ont des difficultés, qui sont demandeurs d'asile, exilés. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Donc aujourd'hui, la formation est remplie pour l'année. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Ils parlent un peu français, pas suffisamment pour s'inscrire à l'université. Et on n'a pas pareil. Il y a beaucoup de cours de français sur l'agglomération. Mais pour certifier du niveau B2, par contre, là, c'est vraiment un niveau qui est très élevé. Et il n'y a pas beaucoup de cours de français qui proposent une formation suffisante pour ça.
Ouais, moi, je voulais juste ajouter que tu parles beaucoup des candidats à l'université. Mmh. Nous, on accueille des jeunes maintenant, notamment guinéens, mais pas seulement, qui ne sont même pas allés à l'école primaire, qui ont fait l'école coranique, mais qui parlent un petit peu la langue, parce qu'il reste quand même des traces du français dans ce pays. Et tout notre problème, c'est de faire en sorte qu'ils soient scolarisés, qu'ils apprennent le français, mais bien d'autres choses aussi. Alors, on donne des cours de français, on travaille beaucoup avec une association qui est Trois Amis, qui a créé une école pour les mineurs qui ne sont pas reconnus mineurs par le conseil départemental et qui ne sont donc pas scolarisés. Et donc, c'est pas seulement l'apprentissage du français, mais c'est l'apprentissage de tous les domaines qui permettent de vivre dans cette société où on a besoin de diplômes, on a besoin de formation. Donc voilà, les associations, elles concourent à ça, mais on peut pas dire quand même que les choses soient facilitées, quoi. Quand je vois que On a, je ne sais pas combien, de dizaines de jeunes aujourd'hui qui sont engagés dans des formations professionnelles, souvent dans des métiers en tension, cuisine, bâtiment, on les a fait rentrer dans les lycées professionnels. Il leur manque une année, ils ont atteint 18 ans, terminé, plus personne ne prend en charge, donc c'est la rue, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pas possible.
C'est pas possible. Alors, Monique, pour l'APADAP, est-ce que les gens qui viennent vers vous sont satisfaits de leurs demandes le plus souvent ?
Ça, c'est une question difficile. Sûrement, ils sont pas satisfaits de la façon dont on les accueille, mais les pauvres, ils sont dans l'angoisse permanente et ça dure des mois. Ils déposent un dossier en février. Je ne veux pas parler de cet exemple, mais quand même, ça existe. Ils déposent le dossier pour passer devant les personnes qui vont apprécier ses capacités à avoir l'asile. Pardon, je bégaye. Et six mois après, il n'y a toujours pas de nouvelles. Et donc, ces gens-là, ils passent dans nos permanences et ils disent, voilà, j'ai déposé un dossier. C'est la même chose pour les titres de séjour, c'est pire. Il faut parfois un an, etc. Et puis c'est le malheur, c'est l'obligation de quitter le territoire qui tombe et pas le titre de séjour. Et là, il faut remonter le moral. J'espère qu'ils sont contents d'avoir des gens à l'écoute, parce que pour le reste de l'administration et des autorités, c'est pas du tout l'ambiance, quoi.
Ouais. Allez, merci. Cette question est pour vous deux. Alors, quelles propositions ou solutions avez-vous à donner au gouvernement français pour améliorer les conditions de vie des migrants ? Serena ?
C'est pas gentil comme question, Ibrahim. Non, c'est une super belle question, mais je ne sais pas si on peut y répondre rapidement.
D'accord.
C'est plutôt ça. Quel conseil pour le gouvernement ?
Quelle proposition ou solution avez-vous à donner au gouvernement français ?
Alors, si c'est trop long d'apporter une question, ça ouvre un débat. Peut-être juste la principale, suggestion qui serait possible, envisageable, que le gouvernement pourrait faire.
Moi, j'ai une solution radicale. Il faut arrêter cette politique migratoire répressive. Donc, il faut une politique d'ouverture et d'accueil. Si on doit parler rapidement, donc. C'est en fait permettre aux gens de venir ici, sans les obliger à passer par des routes dangereuses, sans les obliger à arriver ici dans des conditions déplorables, sans leur interdire de travailler pour subvenir à leurs besoins, parce que les gens n'ont pas le droit de travailler, mais parfois ils ne reçoivent même pas leur allocation. Donc je ne sais pas comment... Et en plus, ils ne sont pas hébergés, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend des personnes. Donc ça serait... supprimer la procédure Dublin qui oblige à faire sa demande d'asile dans le premier pays d'Europe par lequel on est rentré quand on demande l'asile, ça serait forcément rétablir une politique migratoire qui oblige pas aussi les gens à demander l'asile parfois pour eux qui serait la meilleure. Parfois l'asile devient une solution aussi pour trouver une situation en France alors que des personnes n'auraient pas forcément eu envie de demander l'asile. Donc, ça serait beaucoup de choses, toute une politique à reconstruire.
Oui. Et Monique,
Oui, évidemment, moi, je vais dans le même sens, quoi. Il ne sert à rien de multiplier les obstacles. Il y a des gens qui doivent partir, qui ont envie de partir, qui font le choix de partir. Nous, quand on a ces désirs, on peut aller dans 150 pays avec des visas. Les gens qui viennent d'Afrique, d'Albanie, du Kosovo, etc., il n'y a rien de tout ça. Donc on pourrait aussi imaginer un système de visa qui permette de venir en France ou dans l'Union européenne, puisque c'est le problème. Après, il y a toute la question de la façon dont ils sont accueillis. On a réalisé un travail important, là, qu'on vient de publier dans un petit recueil « Propositions pour l'hospitalité ». Qui s'adresse à la fois à l'État, mais aussi aux collectivités territoriales. Alors, il y a 28 propositions sur l'hébergement, sur la santé, sur le travail, sur l'ensemble des conditions de vie ici.
Vous pouvez nous citer la première ?
La première proposition, je dirais que c'est En ce moment, par exemple, ce qui nous paraît prioritaire, c'est que dès qu'ils arrivent en France, certes, il y a toute la procédure d'attribution des papiers qui doit être simplifiée, mais qu'on donne le droit au travail et le droit à la formation. Ce qu'on observe, c'est que dès que des jeunes ou des moins jeunes ont le droit de travailler, ils trouvent du travail, ils deviennent autonomes, on n'a plus besoin de chercher de l'hébergement, ils payent des impôts, ils enrichissent la France. C'est pas une innovation. En France, le droit de travail a été octroyé dès les premiers jours, jusqu'en 1992. Il a été supprimé ensuite. Mais c'est la seule condition pour faire que des gens soient autonomes, citoyens, c'est de leur permettre de travailler. Ils ont des compétences la plupart du temps. Et s'ils n'en ont pas, qu'on les forme. Parce que quand on investit sur la formation, eh bien, c'est toujours bénéfice pour une société. Donc, ce sont ces deux points. Et le troisième point, quand même, c'est la question de l'hébergement. Il est impensable qu'on laisse... Là, en ce moment, par exemple, à nouveau, il y a des gens qui sont derrière la gare, qui campent. Bientôt, il va faire froid. Qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Mais on ne peut pas faire ça. C'est inhumain et aucun argument ne peut contrecarrer ces choix politiques qu'il faut absolument revoir. Et en plus, on nous fait la leçon sur on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Le nombre de gens qui viennent en France, qui demandent à venir en France, n'est pas très supérieur à ce que ça a toujours été. Et on est 14e pays de l'Union européenne à accueillir. On n'a pas un rang excellent. On n'est pas premier, ni deuxième, ni troisième. Qu'on vienne pas nous dire qu'on accueille tout le monde. Non, c'est faux. Et en plus, on dépense un pognon fou à tenter de les renvoyer en Italie, de les renvoyer en Espagne, et, par avion, et ils sont revenus deux jours après. C'est des politiques, mais imbéciles. On ne peut pas dire autre chose.
Ah, oui. C'est la politique de l'absurde.
Oui, merci à tous les deux. Alors, quels sont vos projets à venir pour les deux associations?
Ben, ouais. Nous, notre projet, il est d'amplifier ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire la recherche qu'on fait, c'est à la fois aider individuellement chacun et d'être aussi bon que possible, le faire dans des collectifs migrants, c'est à la fois la CIMAD, Médecins du Monde, 18 associations, je ne vais pas toutes les citer, on travaille ensemble à un meilleur accueil. Mais en même temps, notre volonté, c'est de continuer à sensibiliser l'opinion à ces questions pour leur faire comprendre qu'il faut mettre un peu de rationalité dans l'appréciation des choses. On a d'ailleurs été coproducteur, la part d'app, d'un film qui est super, qu'on a beaucoup fait tourner, qu'on espère faire tourner encore, qui s'appelle Ligne de partage, qui a été réalisé par Thierry Ménessier, qui est disponible encore, et qui raconte un peu la vie de tous ces gens, quoi. Il faut sortir d'une approche quantitative, il y a tant de migrants, rencontrons-les, ce sont des hommes et des femmes comme vous et nous, ouais. Et ils ont besoin de cordialité, de convivialité, ils apportent beaucoup à la France, quoi. La France a toujours été une terre d'accueil, donc je ne vois pas pourquoi elle fermerait ses portes. D'abord, elle ne peut pas les fermer, voilà.
Allez, merci. Oui, Serena.
Alors, dans les projets, on en a pas mal, mais du coup, tu m'as pas posé la question, Ibrahima, mais j'y viens. Donc, oui. L'année dernière, on a mis en place ce qu'on a appelé co-former. Donc, c'est pas porté seulement par le réseau Université Sans Frontières, c'est porté par tout un ensemble de personnes à l'université. Donc, en fait, c'est un réseau qui organise des cours pour les personnes étrangères, notamment en français, informatique, anglais et maths. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des personnes où la langue n'est pas le seul problème, il y a aussi parfois l'écriture qu'on attend du français dans des travaux. On attend beaucoup des étudiants d'utiliser l'ordinateur alors que plein de personnes ne sont pas habituées à utiliser l'ordinateur. en maths, ben le niveau va pas être forcément le même au même quand on a eu le bac, je sais pas, en Guinée ou en France. Donc du coup, on s'est inspiré en fait de quelque chose qui était organisé au Brésil dans une université dans la ville de Paraná. Et donc on a commencé peu à peu à créer un réseau donc dans différentes composantes où un enseignant forme ses étudiants à devenir des sortes de profs ou tuteurs pour les personnes qui diraient qu'elles en ont besoin. Donc ça, on l'a mis en place l'année dernière, ça a commencé tout petit. Donc là, cette année, ça commence à prendre de l'ampleur. Et du coup, à l'avenir, l'idée, parce qu'au Brésil, c'est impressionnant, il y a des cours de droit, il y a des cours de plein de choses différentes. Par exemple, le droit, c'est aussi connaître ses droits en tant qu'étranger. Donc des choses comme ça qui pourraient s'ouvrir, des cours d'histoire. Voilà, pour un peu, en fait, c'est développer la mission sociale de l'université, puisque l'université a une mission sociale, normalement. Donc ça, également, que après un peu des années de travail et de discussion avec l'université, s'est mis en place un bureau d'accueil spécial pour aider, justement, les personnes qui ont des difficultés à s'inscrire à l'université. Donc il y a un emploi étudiant qui a commencé l'année dernière sur ce travail-là. Bon, cette année, c'est Claire qui le fait, que tu connais.
Oui.
Mais il y a un besoin énorme, en fait. Beaucoup plus que ces quelques heures, en fait, qui sont dédiées à ça. Donc, peut-être réussir à faire en sorte que ce bureau d'accueil soit, voilà, un peu plus large pour que l'aide soit meilleure. Et nous, en tant que collectif, on aimerait pouvoir travailler sur cette question de l'hébergement, justement, comme le problème, c'est les garants pour certains étudiants. Bah, peut-être imaginer des choses autour de la garantie, des choses comme ça. Voilà, on imagine des choses et recruter des gens encore pour nous aider au RUSF.
Allez. On a besoin de bénévoles.
Oui, allez, merci. Alors, comment peut-on vous contacter ?
Par nos associations. Moi, j'ai un numéro perso, mais je ne vais quand même peut-être pas le
justement,
donner.
Justement, l'idée, c'est la question, c'est le contact des associations.
C'est la part d'app, c'est à la maison des associations, 6 rue Berthe de Boissieu à Grenoble. C'est vers la caserne de Bonne. La plupart des associations qui s'occupent des migrants sont basées là. Ouais. Donc,
la part d'app a un site internet ?
Oui. Un site internet. Vous faites à part d'app, ça sort.
Dessus. Ouais.
Voilà.
Allez, et nous, pour le RUSF, donc il y a une page Facebook, RUSF38, sur laquelle il y a toutes les infos pour les permanences. Il y a un mail, rusf38@grésille, donc gresille.org. Et sinon, vous pouvez venir à nos permanences qui sont le mardi de 12h à 14h dans la tour Irma sur le campus universitaire à Saint-Martin-d'Air, salle 9. C'est indiqué à l'entrée du bâtiment.
Ok. Allez, merci d'être venu jusqu'à notre studio pour cette rencontre et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un mot de fin ? Quel est votre mot de fin ?
Il faut rester optimiste et continuer à s'engager fort. Et on a besoin de monde, on a besoin de bénévoles. C'est une cause qui vaut la peine.
Okay. C'est bien. Donc, oui, effectivement, quand on parlait des contacts, si on veut devenir parrain ou
marraine. Ah oui, si vous voulez, devenir parrain, n'hésitez pas, appelez-nous. On a besoin de parrains. On en a 500 actifs et un millier. Mais il y a encore tellement de gens qui voudraient vivre dans un contact avec une famille. Il ne faut pas hésiter.
Oui. Je vous rappelle que vous avez un client, Christophe, il serait prêt à parrainer.
Pas carrément, tu t'engages pour moi.
On en discute,
en dehors.
C'est bien. Allez, Sirena,
on continue la lutte pour l'égalité et pour l'ouverture. Ouais. Bienvenue à tout le monde.
Allez, merci et au revoir.
Au revoir.
Merci, bonne route donc à la part d'app et à RUSF. Merci Ibrahima pour ce moment de rencontre. On te retrouve tous les jours de toute façon au gré des agendas, mais il y aura un nouveau rendez-vous Ibrahima et ses invités la semaine prochaine. Ça sera une association qui met en avant la culture arménienne.
Arménienne, oui, bien sûr.
Qui viendra nous parler d'elle. Merci à tous les trois et bon après-midi. Tout de suite, c'est le retour de la musique non-stop sur News FM. Et à 16h, vous avez rendez-vous avec Emeric pour le direct de l'après-midi. Salut à tous. 101.2 News FM.